Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité, émission coproduite par l'ANRAS, Association Nationale de Recherche et Action Solidaire. À la technique et à la réalisation, ma complice de toujours, Tiphaine, bonjour Tiphaine, et votre serviteur, André Satenza. Nous recevons aujourd'hui Madame Claudette Brialix, présidente de la Fédération nationale des associations et des amis des personnes âgées et de leurs familles. Elle est en duplex, c'est une première pour moi. La liaison est bonne. Madame Brialix, est-ce que tout se passe bien et que la liaison est bonne?
Bonsoir, eh bien, le BRI se porte bien, la liaison est bonne.
Merci. Et dans nos studios, Philippe Trouzelard, le délégué Occitanie de cette même fédération, en direct dans nos studios. À trois voix, nous allons aborder la question « On a oublié les vieux ?» Dans cette campagne électorale, votre fédération porte des propositions. Mais je souhaiterais venir d'abord sur la question du soin, et notamment le soin pour nos aînés. Nous devons aller vers une société du soin, oublier la société individualiste qui nous ronge, la culture du soin, du prendre soin, au sens anthropologique, éthique et politique, doit être une préoccupation de tous les jours pour mieux accompagner la vieillesse. La philosophe Corinne Peluchon nous invite à entrer dans la relation du soin avec nos vieux. Elle précise que la relation à l'autre ne peut se construire dans un système de marchandisation. La condition humaine repose par nature sur les interdépendances entre les sujets. Et seule la présence d'autrui peut soutenir les plus faibles et les plus vulnérables. Cette obsession du rendement, la disparition du bien commun, produit, me semble-t-il, la détresse des hommes. Les personnes en situation de handicap, les vieillards, doivent vivre parmi nous, avec nous. Et nous affirmons avec force que la société du soin, pour nos aînés, pour nos vieux, ne peut pas être une société de la financiarisation de tous les établissements, EHPAD ou maisons de retraite. Il y a donc urgence à défendre une économie de la solidarité, à défendre l'économie de l'humain. Avec Madame Brialix, la présidente, avec notre délégué Occitanie, Philippe Trouzelard, nous allons aborder l'ensemble de vos propositions. Elles sont nombreuses. Je répète votre slogan, n'oubliez pas les vieux, il faut regarder en face son vieillissement. La première question, Madame la Présidente, question importante pour trouver et mettre en œuvre cette politique de la dépendance et du vieillissement. Ben, il faut construire, comme on dit, une filière gériatrique. Alors la tâche n'est pas simple, parce que avec le manque de médecins, le peu d'appétit pour ces métiers-là, on pourrait dire qu'on est mal parti.
Oui, effectivement. Alors pour que vos auditeurs comprennent bien, je pense qu'il faut avoir en mémoire quelques chiffres. Les personnes âgées, donc plus de 60 ans, c'est un quart de la population française. Mais sur ce quart de la population française, beaucoup d'entre nous auront la chance de finir notre vie en bonne santé, si je puis dire.
Ce qui est une bonne nouvelle.
Pardon ?
Ce qui est une bonne nouvelle. Nous allons vivre vieux et en bonne santé.
Voilà. Mais alors, à la condition justement qu'on y mette les moyens, et c'est là qu'on va venir sur notre filière gériatrique. Donc toujours un petit peu donc pour situer. Actuellement, en dépendance, donc perte d'autonomie, nous avons 2 millions de personnes. Et dans ces 2 millions de personnes, vous en avez 600 000 en établissement qui sont installés donc dans 7500 EHPAD. Ça fixe les ordres de grandeur. Il faut savoir aussi que donc ces personnes aujourd'hui, il y avait eu un travail important de fait dans le cadre de la concertation grand âge, qui avait estimé à 9 milliards, un peu plus de 9 milliards d'euros, le coût qu'il faudrait engager pour qu'on puisse avoir un accompagnement digne de ce nom, qui va du tout premier moment on est en perte d'autonomie. Ça commence d'abord par la solitude, souvent, la prévention, puis les premiers accompagnements, puis les soins. Et puis, malheureusement, quand ça se dégrade, l'établissement, tout le monde n'ira pas et c'est tant mieux. Et puis aussi la gestion de la fin de vie, en passant par un hôpital qui sache accueillir ses vieux.
Alors, mais la question quand même, Madame Brialix, on voit bien que beaucoup d'EHPAD n'ont pas de médecin coordonnateur. Parfois, on bricole avec des temps partiels. Alors, quand je parle de temps partiel, pour être très précis, ça peut être un 0,20, un 0,30, un 0,40, un 0,50, jamais du temps plein. Nous avons souvent des retraités, médecins coordonnateurs retraités. Je peux témoigner, retraités, médecins, coordonnateurs, 69 ans, 71 ans, 72 ans. Il nous rend service. Comment peut-on aujourd'hui recruter des médecins coordonnateurs, sachant que pour former un médecin classique, pourrait-on dire médecine de ville, il faut 10 ans, avec une spécialité. Vous dites construire une filière gériatrique, les facteurs clés du succès ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui. Même s'il y avait de l'argent, il serait très difficile de la construire.
Tout à fait, dans la mesure où en fait on a laissé se détériorer une situation depuis l'instauration en fait du numerus clausus qui remonte quand même à la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, hein, ce qui n'est pas d'hier. Et en fait on a laissé perdurer cette situation qui fait que nous manquons de médecins. Quand je parle de filière gériatrique, on commence à manquer de médecins dès le départ. Avant d'arriver en EHPAD, pour être sûr que vous allez vieillir en bonne santé, que vous serez correctement accompagné, il faudra des soins, on aura l'occasion de les développer, mais vous faudra un médecin traitant. Et aujourd'hui, le nombre de personnes qui n'ont pas de médecin traitant est très très important. Et des plus de 85 ans aujourd'hui n'ont pas de médecin traitant. Et quand ils arrivent à en trouver un, quelquefois, ils n'ont pas visité un médecin depuis 4 à 5 ans. Je vous laisse imaginer l'état de détérioration dans lequel ils peuvent se trouver.
Alors, il est clair que là, la santé se dégrade très très rapidement. Manque de médecins coordonnateurs, manque de médecins tout court, de médecins traitants, médecine de ville. Et on rajoute à cela infirmières également, manque d'infirmières et de cadres de santé dans certains établissements. Encore une fois, je dirais, les directeurs ou les directions font ce qu'ils peuvent avec, bien entendu, les recrutements. Alors là, également pour les infirmières, que fait-on ?
Alors pour les infirmières, ce qu'il
est-ce
faut
que
savoir,
c'est plus facile.
Je reviens toujours sur la notion de filière, puisque ça commence d'abord au domicile, puis ensuite ça se termine en établissement. Au domicile, nous avons la chance d'avoir quand même encore des médecins, des infirmières libérales en nombre à peu près suffisant et réparti sur l'ensemble du territoire pour pouvoir donner des soins de proximité dans le domaine du paramédical. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour des soins du type kinésithérapie, où là, nous avons de vrais gros problèmes. Par contre, l'absence de médecins traitants fait que, et on y viendra, on amène les personnes âgées, quelquefois, à atterrir aux urgences des hôpitaux, parce que, tout simplement, ce n'est pas qu'elles aiment y aller, mais c'est qu'il n'y a pas d'autre solution pour répondre aux problèmes quand il n'y a plus de médecins traitants. Bon, alors, pour ce qui concerne les infirmières, par contre, c'est beaucoup plus difficile au niveau des établissements, dans la mesure où les conditions de travail, tant à l'hôpital que dans les EHPAD, sont tellement difficiles que les professions paramédicales se sont découragées. Le Covid leur a porté le coup de grâce, puisqu'il y a eu en fait une accumulation de démissions dans différents postes. Et il existe aujourd'hui des postes qui ne trouvent pas preneurs, ce qui aggrave la situation justement, et vis-à-vis des personnes âgées elles-mêmes, mais vis-à-vis également des conditions de travail du personnel qui reste.
Il n'y a pas, à votre avis, Madame la Présidente, de vocation d'infirmière. On peut quand même recruter. Les gens sont attirés vers ces métiers. Donc, mauvaise expérience du Covid, pensez-vous qu'on puisse revenir à une situation, en tout cas, plus ordinaire ?
Pour revenir à une situation plus ordinaire, il va falloir que l'on considère tous les métiers de la santé. et que non seulement on réponde à des revalorisations salariales justifiées, mais absolument qu'on revoie le fonctionnement pour créer des conditions de travail favorables au personnel et de fait aussi favorables aux personnes qui seront accompagnées en soins. Et c'est indispensable. À l'heure actuelle, une discussion se fait court justement sur la façon d'accéder aux instituts de formation des infirmiers. Ça se fait par Parcoursup. Alors il y a un débat qui s'engage en ce moment. Est-ce que c'est la bonne façon d'accéder? La notion de vocation, ça n'est plus tout à fait comme ça pouvait l'être il y a quelques années. On n'approche pas le métier de la même façon parce que le public qui accède au métier, mais ça se trouve dans d'autres professions aussi, n'a plus la même approche du travail que celle que nous avions pu connaître. Ça ne veut pas dire par là qu'ils ne veulent pas travailler, ça veut dire qu'ils considèrent l'approche différemment, donc il faut aussi s'adapter à cela.
On considère également, Madame Brialix, que les personnes vieillissantes, nos aînés, nos vieux, comme vous dites, préfèrent quand même vieillir à domicile. Oui. Mais il faut organiser toute la filière pour que cet accompagnement à domicile se fasse dans des conditions tout à fait idoines. Pourquoi ça bloque? Parce que quand on observe ce qui se passe en Italie, ce qui se passe dans les pays nordiques, ce qui se passe en Espagne, si on compare les pays nordiques, les pays du Sud, on voit bien qu'il y a des filières, qu'on sait bien vieillir chez soi sans trop de difficultés. Pourquoi dans notre pays cela devient aussi complexe et pourquoi cette difficulté, soit en ville, soit dans l'hyper-ruralité, quel est le problème?
Alors, le problème, alors, vous parliez de l'Italie. Il y a entre les pays du Nord et les pays du Sud une tradition familiale qui est approchée différemment. Bon. Et il est vrai, par exemple, que vieillir chez soi et avoir, par exemple, son aïeul chez soi a été rendu plus difficile pour des raisons d'abord d'exiguïté, souvent de logement, en particulier en zone urbaine, mais aussi par la dispersion des familles qui fait qu'aujourd'hui, l'accompagnant de proximité, qui est absolument indispensable pour compenser l'insuffisance des soins donnés par des professionnels, n'existe plus partout. Vous avez aujourd'hui les personnes âgées dépourvues d'accompagnants, c'est-à-dire d'aidants familiaux. Puisque les enfants ne sont plus à côté, on a encore des conjoints, mais ça pose problème de ce point de vue-là. Bon. En ce qui concerne le domicile aussi, il faut qu'on organise pour qu'il y ait des soins convenables une coordination de tout ce qui est nécessaire au domicile. Il faut donc avoir un médecin traitant, il faut avoir une infirmière qui éventuellement aussi une aide à domicile qui coordonne l'ensemble des intervenants de façon à ce que les horaires soient répartis, que les soins soient gérés de façon continue et ordonnée. Il faut aussi veiller à faire en sorte d'anticiper les travaux nécessaires à l'adaptation du logement. Donc c'est tout cela qu'il faut considérer.
Et tout cela doit être financé. Et aujourd'hui, dans les propositions des candidats à la présidentielle, vous dites que le compte n'y est pas.
Alors, le compte n'y est pas, et puis très franchement même, je dirais qu'on a, il y a des propositions qui sont en fait des choses déjà existantes, donc il n'y a pas vraiment d'éléments nouveaux. En particulier, le premier stade de l'accompagnement pour éviter de mal vieillir, ça commence par la prévention, et la prévention d'une façon générale, chez nous, en France, nous ne sommes pas très forts sur le domaine de la prévention.
Philippe voilà. Trusela, vous voulez ajouter quelque chose sur cet accompagnement? Parce que dans l'accompagnement, il y a également les aidants. Donc ça veut dire qu'il faut former les aidants, il faut faire en sorte que ces aidants soient y compris formés. Donc ça devient compliqué. Hein.
Moi, pour ma part, Andrés, oui. je voulais surtout intervenir sur la question de l'humain. Vous avez parlé au début, hein, dans votre introduction, vous avez bien noté l'importance de l'humain. Claudette faisait référence à l'aïeul chez soi. Moi, il me semble qu'en effet, il y a des requis dont on vient de parler qui sont absolument indispensables. Mais dans notre société d'aujourd'hui, et je crois que quand on voit notre fédération, les membres qui y sont aujourd'hui, il y a ce besoin de contrôle, de la protection de l'humain que sont nos anciens. Et c'est-à-dire que on peut se poser la question, aujourd'hui, chacun, ça me fait penser un peu d'ailleurs à ce qu'on demande aux enseignants, bon certes, mais quel rôle joue-t-on, nous, en tant qu'humains? Et je dirais, quel rôle joue la famille. Et je prendrai un seul exemple dans les programmes en particulier du deuxième tour. Il est intéressant de voir comment on considère la famille. Qu'est-ce que la famille ? Et la famille, on a tendance à se focaliser, ce qui est une bonne chose, bien évidemment, sur les enfants, la question, la difficulté famille monoparentale et autres. Mais il y a des fiches où la famille, on ne parle pas des anciens.
Très bien. C'est un sujet tabou. La vieillesse, il faut la cacher. Cela veut dire ça, monsieur Philippe Trousselard. On ne peut pas. On cache les vieux comme jadis on cachait, eh bien, on cachait les handicapés.
Je ferais peut-être un peu de provocation, mais bon, est-ce qu'on cache pas, est-ce qu'on ne veut pas ne pas voir ce qui se passe? Alors, bien évidemment, tout ça sur les questions dont on vient de discuter, mais je dirais au sein même de la famille. C'est-à-dire qu'il faut, que les proches, les aidants, et Andrés, vous parliez des aidants, il y a déjà les aidants. De la famille.
De la famille la plus proche.
La plus proche.
Et on n'est pas spécialiste, il faut faire en sorte qu'on puisse les former. On a vu quand même des aidants dans beaucoup de familles qui étaient épuisés également. Madame Aubry-Alix, quand il y a des pathologies, c'est très difficile pour les familles, quoi.
Et justement, les aidants sont souvent appelés à pallier, en fait, à l'insuffisance d'accompagnement professionnel et qui les conduit à s'investir au point que l'aidant devient plus malade encore que l'aider, et qu'ils disparaissent avant l'aider. Ce qui, en fait, crée des situations d'une extrême détresse et qui amène d'urgence à entrer en établissement alors qu'on n'y est pas forcément préparé. Et ça, il faut absolument que les gens aient bien ça en tête. Et pour dire également ce que disait Philippe, souvent je dis moi aussi, c'est vrai que la vieillesse, on ne veut pas la regarder en face. Même les vieux dont je suis déjà, n'acceptent pas de la regarder pour eux-mêmes. Alors je ne vous dis pas en fait ce que peuvent faire leurs enfants qu'ils ne veulent pas regarder. C'est vrai qu'il est plus agréable d'avoir une grand-mère sauter en parachute ou danser le rock'n'roll que de marcher avec un déambulateur ou en fauteuil roulant.
Sauf que la vieillesse, c'est cela. On peut sauter en parachute, mais parfois il peut y avoir d'autres pathologies et ça doit être très très difficile. Et c'est vrai qu'on a des représentations sociales, et ces représentations sont faussées. On veut toujours avoir des personnes en forme. C'est ça le problème, Madame Aubry-Alix.
On souhaite avoir
des vieux, mais qu'ils soient en forme.
Bien sûr, on souhaite avoir des vieux en forme. Regardez dans les reportages télévisés ce qu'on nous montre en général. Hein. La dame super belle, la super mamie qui fait de la gym à 90 ans, le centenaire qui fait une performance à vélo sur un circuit. Ça, c'est formidable. Hein. Mais en contrepartie, vous avez combien de personnes qui, certes, peut-être sont en fauteuil roulant, en marche avec un déambulateur, mais qui ont par contre une richesse intellectuelle et quantité de choses à transmettre et qu'on ne veut pas regarder alors qu'ils ont plein à transmettre. Et justement, ils sont empreints de cette humanité qui fait défaut aujourd'hui.
Donc, il faut partager et il faut savoir partager les savoirs. Et bien entendu, nos anciens savent le faire. Dans vos fiches, pour interpeller l'ensemble des candidats, je retiens une fiche ici, l'accompagnement au vieillissement, où vous donnez des conseils aux familles. Par exemple, vous déconseillez d'utiliser les auto-entrepreneurs. Vous considérez qu'il vaut mieux passer par des professionnels avec soit des associations de l'économie sociale et solidaire, soit bien entendu par d'autres services sanitaires. Mais être directement employeur, vous dites, c'est le début des difficultés.
Ça peut être le début des difficultés dans la mesure où il faut, quand on est à domicile, il ne faut pas oublier qu'on est seul avec son intervenant. Et qu'il est vrai que fragilisé, on devient vulnérable. Et donc, il faut être en mesure d'assurer la totale maîtrise. L'intérêt est de passer par un groupement, donc soit une association qui gère des services à domicile ou une autre structure, c'est que d'abord vous avez une garantie de continuité d'accompagnement, ce qui n'est pas le cas lorsque vous êtes vous-même l'employeur. En plus, quantité de personnes utilisant les chèques emploi-service se sont trouvées dans une situation où, n'ayant pas signé de contrat de travail, lorsque la personne décède, les familles oublient qu'il y a à clore un contrat de travail et nous avons eu des remontées de procédures en prud'homme. Donc il faut faire très très attention à cela, ça peut se créer des problèmes. Et puis la vulnérabilité est importante, il faut qu'il y ait des contrôles, il faut qu'il y ait la présence de tiers de temps à autre.
Donc vous demandez que les familles donc s'impliquent ou qu'il y ait des personnes de confiance qui puisse en effet contrôler ce travail administratif en tant que responsable. Bien évidemment, en tant qu'employeur, il ne faut pas oublier qu'il y a des, malgré le chèque, il faut déclarer un certain nombre de choses. En effet, la personne vieillissante ou, ou le vieux, comme vous dites, eh bien, peut se trouver à des difficultés réelles. Je vous propose, ma chère Philippe, ma chère Claudette, de revenir à une belle chanson. On oublie qu'il faut aimer les gens, savoir aimer.
Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. Goûter à ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus. Se voir y croire pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir, se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre qu'on tire un trait sur le passé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Apprendre à rêver, à rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, et savoir donner, donner sans rature ni demi-mesure, apprendre à rester, vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer, s'en aller. We'll be right back.
Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité en duplex avec Madame Claudette Brialix, la présidente de la Fédération nationale des associations et amis des personnes âgées et de leur famille, et dans nos studios, son délégué Occitanie, Philippe Trougelat. On a parlé de l'accueil, accueillir cette personne vieillissante dans les établissements, s'occuper d'elle, bien entendu, à domicile pour bien vieillir. Tout cela doit se faire avec un financement. Et là, je voudrais que Philippe Trougelat puisse nous dire ce qu'il pense des assurances dépendance, de quel financement pour la suite. Vous interpellez les candidats à la présidence de la République, n'oubliez pas les vieux. Si on aborde cette question du point de vue macroéconomique, on pourrait dire qu'il faudrait un engagement clair des candidats pour donner et informer directement ou s'engager sur le point de PIB nécessaire, c'est-à-dire la solidarité nationale est prête à mettre sur la table pour soutenir un quart de la population. Alors revenons, est-ce que c'est la solidarité nationale ou ça va être le système assurantiel, mutualiste ou assurance privée, Philippe ?
Alors André, si vous le permettez, en fait, on a vous parlé des assurances dépendance. En fait, aujourd'hui, le financement, que ce soit en EHPAD ou l'accompagnement, les familles se financent, on se finance comment ? Sur ses propres revenus, la personne éventuellement sur ses propres revenus, sur son patrimoine, grâce à l'aide des proches, hein, les enfants, les petits-enfants, et plus en complément quelques aides financières, du type l'allocation personnelle personnalisée d'autonomie, l'APA. Alors vous parlez du PIB. Alors dès qu'on parle de financement, et je reprendrai une phrase qui a été écrite dans le rapport de Dominique Libault, le conseiller d'État qui a fourni son rapport au Premier ministre en 2019.
Excellent rapport.
Excellent rapport, oui, tout à fait. Ce rapport, j'invite nos auditrices et auditeurs à le consulter en ligne, 226 pages. Ce qui prouve que l'analyse a été extrêmement bien faite. Alors, il y a une phrase dans ce rapport que je cite : « Les dépenses strictement liées à la perte d'autonomie des personnes âgées sont difficilement identifiables. » Alors, aujourd'hui, on peut les répartir. Hein, il y a la sécurité sociale, l'État, les exonérations fiscales, l'aide au logement, les départements, donc avec l'APA dont on parlait juste avant, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSCA. Alors vous parliez de PIB, en effet ce qui est intéressant c'est de voir qu'au total, hein, quand on fait une analyse, et ça je m'appuie sur le rapport complémentaire de travail de Dominique Libault, on arrive à un total de 24 milliards d'euros. Alors c'est toujours très difficile de parler de milliards et de quantifier ces sommes-là, mais sachant que le PIB de la France, on est à moyenne, enfin je crois qu'on est autour de 2300 milliards, en tout cas c'est ce qu'on avait en 2020. Et au total on a 30 milliards d'euros pour les financements confondus, soit, en effet, 1,3% du PIB. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer ce pourcentage avec d'autres éléments, du type le chômage, 1,9%, l'enseignement, 5,1%, la défense, 2%. Bon, il y a un candidat, d'ailleurs, au deuxième tour, qui reparle du maintien du PIB. Hein. Alors, cette recherche de financement, il se confronte, et on en a parlé tout à l'heure, problématique sociétale, on l'a dit, la part croissante de la population âgée, la décroissance de la population active, et puis aussi l'espérance de vie en bonne santé, parce qu'on peut être, toujours en vie, mais par contre, est-ce que la bonne santé est réellement là ? La dispersion géographique, on en a parlé tout à l'heure. Et quelle sera l'évolution économique future ? On voit bien dans nos problématiques actuelles, diverses et variées. Alors, on a des exemples aujourd'hui en termes de financement. Il y a l'Allemagne qui, elle, a une assurance dépendance obligatoire avec une cotisation en fonction du revenu. La Suède, Finlande, Danemark, c'est une prise en charge des personnes âgées qui relève des municipalités. Donc on voit bien
directement.
Oui. Donc on voit bien la difficulté. Faut-il vivre dans une entre guillemets une bonne municipalité plutôt qu'une autre ? Un bon exemple aussi. Enfin le bon, il y a les guillemets. Les maisons de retraite en Royaume-Uni sont presque toutes privées. Alors les services publics prennent en charge uniquement les résidents qui détiennent moins de, exactement, autour de 28 000 euros. Hein. Donc je dirais, avec un humour noir, ceux qui ne peuvent pas payer, eh bien, doivent finalement aider, vider leurs économies pour obtenir une place. Alors, la Norvège qui vient par exemple de reprendre en charge les EHPAD privés.
C'est ce qui se passe déjà aujourd'hui. Un certain nombre de familles, quand ils ont un peu de patrimoine, ce patrimoine sert aujourd'hui à payer l'EHPAD. Ça commence déjà. Jadis, le patrimoine était transféré aux enfants. Aujourd'hui, ce patrimoine, la maison, un appartement, va me permettre de payer ma maison de retraite.
Et oui, et on peut même se poser la question...
Les assurances-vie servent aussi à cela, aujourd'hui.
Quelles sont les générations futures qui vont pouvoir continuer là-dessus? Parce qu'il y a un jour, le patrimoine... je pense qu'on a vécu une société où les parents, les enfants avaient des revenus en moyenne, hein, une grosse moyenne supérieure aux parents. Donc ceux qui se vident aujourd'hui de leur patrimoine, ça veut dire que derrière, les générations futures seront affectées. Mais là, je pense que c'est une autre problématique. Alors, le financement à prélèvement obligatoire constant, alors il est intéressant puisqu'on parle de l'extinction de la dette sociale qui était prévue en 2014 et puis elle a été reportée en 2025 et 2033. Il y a l'affectation d'excédents futurs de la sécurité sociale. Bon. Est-ce que la sécurité sociale aura des excédents futurs quand on voit ce qui s'est passé pour le Covid et le montant qui a été dépensé? D'ailleurs, pas toujours très clair. La mobilisation du fonds de réserve des retraites. Moi, j'étais un peu horrifié d'entendre dernièrement un candidat. Et on n'est pas là pour faire de la politique, bien qu'on est quand même...
En tout cas, vous êtes là pour les interpeller.
On est là pour les interpeller. Mais je dirais à ce micro, on va essayer d'être tout à fait, autant que possible. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais dire que les retraites, adapter les retraites, ça permettra de financer, on peut se poser des questions. Alors, il y a les financements par une hausse de prélèvements obligatoires, les journées de solidarité, la hausse de la fiscalité et les successions. Bon, journée de solidarité, on voit aussi ce que ça a donné. Et les financements par une assurance publique obligatoire. Et je crois, et Claudette me reprendra si besoin, mais c'est bien une proposition qui est à la faveur de notre fédération, c'est-à-dire... des cotisations basées sur les revenus selon les grands principes de l'assurance maladie. Je cotise selon mes moyens et je reçois selon mes besoins.
Et uniquement sur l'assiette du travail, parce que vous avez deux modèles. Il y a deux modèles qui s'affrontent aujourd'hui. Ouais. Vous avez ceux qui considèrent que c'est uniquement l'impôt, d'autres qui considèrent que ce sont les cotisations dites sociales. Donc le modèle anglo-saxon, pourrait-on dire libéral, le nôtre qui est plutôt, pourrait-on dire, assez régulé. Madame la Présidente, les propositions que vous faites pour le financement, en complément de ce que vient de dire Philippe.
Alors effectivement, nous nous sommes toujours prononcés pour donc une cotisation obligatoire, mais une cotisation dont l'assiette quand même ne serait pas limitée au seul revenu du travail.
D'accord.
Parce que il faut qu'il y ait, il y a quand même une assiette. Si on prend la CSG par exemple, c'est vrai que c'est pas une cotisation là. Nous sommes dans une situation d'impôt là sur la CSG, mais il faut qu'il y ait quand même une assise, une assiette assez large pour qu'il y ait la notion de solidarité. À l'heure actuelle, on enferme le financement de la vieillesse entre les vieux eux-mêmes. C'était la fameuse contribution supplémentaire, vous savez, qu'on avait acquittée pour ceux qui étaient imposables sur le revenu. Et ensuite, on se dit, il faut que les vieux se financent entre eux. Nous disons, il faut qu'il y ait dans ce domaine une solidarité nationale. Les vieux sont appelés à juste titre à participer eux-mêmes à une solidarité nationale. Pourquoi eux en seraient-ils exclus en contrepartie? Surtout que j'insiste... beaucoup d'entre nous finiront leur vie en bonne santé et que ce sera une minorité, comme d'ailleurs pour la maladie, qui seront touchés par le besoin de financement.
Revenons toujours à ce financement parce que avec ce que vous venez de dire, il faut ouvrir le chapitre du financement de la réforme des retraites.
Et oui.
Inévitablement. Et là, les candidats à la présidence de la République, on y va... On sait qu'il y a de nombreuses propositions, qu'il y aura débat. Mais avant d'aborder la question des retraites, Monsieur Libault, un rapport, Philippe dit, excellent rapport, je le confirme, un excellent rapport. Mais j'ai compté les rapports, je crois qu'on est à une vingtaine de rapports oui. sur la question du vieillissement dans notre pays. Combien de rapports faut-il encore pour que réellement il y ait une vraie politique du vieillissement dans notre pays?
Mais cette politique, Andrés, on l'attendait, parce que ce rapport de 2019, et il s'est bien été écrit d'ailleurs dans la communication gouvernementale, c'était à l'époque un rapport qui devait servir à produire la loi Grand Âge. D'accord. Et cette loi Grand Âge, elle est tombée, excusez-moi, mais elle est tombée à la...
Enfin, elle a été oubliée.
Elle a été oubliée. J'allais elle dire à la oubliée. Poubelle, c'est un peu excessif. Mais bon, elle a été oubliée. Et c'est bien ça le problème d'aujourd'hui. C'est qu'on a un rapport qui est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, Dominique Libault a ressorti un rapport dernièrement qui est le service public territorial de l'autonomie, le rapport SPTA, qui est très récent puisqu'il est du 17 mars de cette année, avec toujours, je dirais, autant de qualité. Alors moi, ce qui me semble intéressant dans ces questions, c'est aussi, si je peux poursuivre un peu sur cette question du financement privé, qu'ont fait les personnes dans la question financement privé? Beaucoup ont souscrit ce qu'on appelle des assurances dépendance. Alors personnellement, j'ai beaucoup de contacts sur ces questions d'assurance dépendance, et en particulier directement avec Dominique Libault, avec lequel je suis en contact de manière régulière. Les assurances dépendance posent problème. Et le rapport Libault de 2019 le montre bien.
Le mentionne.
Et c'est un fait. On a eu des personnes qui ont cru se protéger avec des rapports, avec une assurance dépendance souscrite. Alors, moi, je pourrais vous donner simplement un exemple.
Peut-être quelques chiffres.
Oui, oui, quelques chiffres. Un ordre d'idées. Par exemple, pour une rente mensuelle, 1650 euros en cas de GIR 1, GIR 2, donc le niveau de la grille Agir. On peut considérer qu'en moyenne, et Claudette me reprendra, et en moyenne, aujourd'hui, on a des moyennes de 2300, 2500 euros sur un financement en EHPAD. Donc, il faut que les personnes, elles ont voulu se protéger par rapport à ces assurances. Et quel constat on fait aujourd'hui? Alors, ça a été dit par Claudette tout à l'heure. Bah, d'une part, vous avez des personnes qui sont encore, heureusement, en bonne santé, mais qui continuent de payer. Sauf que la grande majorité des assurances, et je me permets de la nommer, on a un exemple de contrat qui est Protectis Autonomie, qui a été souscrit par la banque, par la banque postale prévoyance. On pourrait supposer que banque postale plus prévoyance, qu'on a un peu de garantie. Et bien, qu'est-ce qu'on a constaté sur quasiment 8 ans, une dizaine d'années? Un doublement des cotisations. Pas plus tard qu'avant-hier, j'avais un jeune, dont les parents avaient un certain âge, et il a découvert que ses parents payaient une somme conséquente, justement, avec ce contrat.
Cette assurance.
Voilà, et bien pas plus tard qu'hier matin, j'étais en contact avec lui, parce que la seule solution pour lui, compte tenu des revenus de ses parents, c'est d'arrêter.
Et donc une perte, donc, vraisemblablement une perte sèche pour la famille.
Et oui, est-ce qu'on peut dire ça? Une perte sèche, même pas, parce que je suis également, je suis des contrats de la même, toujours dans ce cadre-là, ou même si vous êtes en GIR 1, GIR 2, etc., eh bien, il faut se battre pour avoir cette assurance. Et se battre, c'est, ben, vous envoyez une lettre recommandée avec avis de réception, eh bien, vous avez des assureurs, et c'est le cas de la Banque Postale Prévoyance, qui ne communiquent qu'avec l'assuré. On arrive à l'aberration où vous avez l'assuré qui est en état de dépendance, qui est en état de point de vue, il ne peut pas assumer. Eh bien non, c'est à lui qu'on envoie le courrier. D'accord. Et j'ai une personne qui a eu ce problème-là. Donc, on peut dire que...
Les assurances privées, et notamment Banque Postale ou toute autre banque, est-ce que les mutualistes ont pris ce marché ou souhaitent se lancer dans ce marché de l'assurance dépendance?
Alors, vous avez,
des exemples?
Oui, il y a des exemples de mutuelles qui offrent une part. Mais là, c'est pareil, on reste dans un cadre. On a parlé tout à l'heure de cadre privé. Hein. On est toujours dans la même incertitude, des cotisations, du revenu, en résumé, ces assurances dépendance, il y a vraiment un échec. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ces personnes qui arrêtent leurs assurances ou qui les continuent, Eh bien, un nouveau système, il faudra trouver le biseau pour rentrer dans ce nouveau système.
Vous dites aujourd'hui qu'on n'a pas d'autres outils, les outils de ce financement, il faudra le trouver. Madame Aubry-Alix, quelles sont les propositions pour d'autres outils? Vous dites la cotisation, en effet, est une cotisation de la solidarité nationale, mais est-ce que les familles doivent aussi, comme pour les retraites aujourd'hui, dont certains prennent des, bien entendu, des contrats particuliers? Je vous donne un exemple, notamment pour les fonctionnaires, préfonds retraite, qui est un complément à la retraite, qui est grosso modo, on peut le dire aujourd'hui, il n'y a pas de langue de bois, en tout cas à Esprit Occitanie, c'est un fonds de pension à la française, quoi, qui est géré par les partenaires sociaux, préfonds retraite. Alors, est-ce que vous êtes dans ce modèle-là ou vous avez un autre modèle à proposer?
Alors, tout d'abord, sur les, il faut savoir qu'en ce qui concerne ces références, vous citez la Préfonds,
oui.
La Caisse de dépôt et consignation, hélas, en valide plein. Hein, la Caisse nationale de prévoyance et ainsi de suite. Hein, et tout ça, c'est validé par la Caisse des dépôts et consignations, hein, qui est quand même le plus gros organisme public de gestion de l'ensemble des retraites, entre autres, et pas que, hein, et loin de là. Donc, alors en ce qui concerne donc les cotisations, je voudrais revenir donc sur cette cotisation dont on sait justement qu'il n'y aura pas, je le disais tout à l'heure, pas énormément de gens. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a 2 millions de personnes qui sont en état de dépendance. 2 millions par rapport au quart de la population que représentent les personnes âgées. Donc si vous voulez, la cotisation pourrait être de l'ordre moyen de 25 euros mois. Alors il faut voir ensuite, ça se discute, si on la rend progressive dans le temps ou comment on l'organise. Mais en fait, une évaluation qui avait été proposée au Conseil de la famille et de l'âge la situait à ce niveau et permettait effectivement de répondre. Voilà, donc ça veut dire que c'est possible, à la condition de considérer que la solidarité nationale s'impose et que donc les vieux ne se financent pas entre eux. Bon. Pour comparer justement, confirmer ce que disait Philippe, le niveau de coût des maisons, des EHPAD aujourd'hui, donc des maisons de retraite, on approche aujourd'hui les 2000 euros en moyenne. Mais il faut savoir que lorsque nous tombons sur le secteur commercial, nous arrivons très vite à 2700, 3000, 4000 euros.
Voire
et
plus.
Alors je ne vous parle pas de Neuilly où c'était le summum. Mmh.
On va en parler, bien entendu, oui. Mais je ne voudrais pas faire, bien entendu, une page publicitaire. Alors, pour ces organismes, mais il faudra en parler quand même, parce que c'est oui. Particulièrement scandaleux.
Alors, par contre, dans un EHPAD, ce qui est assez normal, par exemple, c'est de payer le coût de l'alimentation, de payer un équivalent loyer, un équivalent oui. Fluide, comme on le ferait chez soi. Donc une part est déterminée. Est-il normal que les familles supportent, par exemple, toute la charge des personnels administratifs de gestion et tous les personnels techniques de gestion et une part du personnel d'accompagnement de soins dans son tarif hébergement. Ce n'est pas normal.
On va revenir toujours pour conclure ce chapitre des retraites et on ira se promener du côté du Brésil pour une petite balade musicale. Mais avant, quand même quelques chiffres qu'il faut rappeler à nos auditeurs. La retraite moyenne de 1393 euros net. Alors, la pension des femmes, 40% inférieure. C'est-à-dire qu'une retraite des femmes, c'est 835 euros. Alors, comment est-il possible que dans notre pays, on soit dans cette situation, Madame la Présidente?
Eh bien, on est dans cette situation parce que la place des femmes, alors je vais faire du féminisme et du bon féminisme, la place des femmes n'est pas reconnue à la hauteur des responsabilités qu'elles exercent. Les femmes ont rarement des carrières complètes. Alors, ce sera peut-être un peu moins vrai maintenant dans la génération qui suit, car plus de femmes ont travaillé et plus de femmes auront une retraite personnelle, car la plupart des femmes qui sont actuellement en établissement sont des femmes qui ont avant tout des pensions de réversion. Et pas beaucoup de ventes de pensions en propre. Hein. Donc on peut penser que cette situation va évoluer, sauf que, on est toujours sur la notion de pension à tel niveau. Par exemple, les candidats disent aujourd'hui pension minimum à 1100 euros, mais pour une carrière complète. Or, vous avez aujourd'hui quantité de femmes encore qui n'auront pas de carrière complète et qui ont repris soit du temps partiel, soit du temps pour s'occuper de leurs enfants, mais qui prendront aussi du temps pour être aidants à leur tour. Et tout cela pénalisera leur carrière, donc leur retraite.
Merci, Madame Brély. Je vois que vous avez fait du féminisme de haute volée. Et on vous salue pour cela. Je vous propose rapidement d'aller du côté du Brésil pour une petite balade.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver por vida a passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar cantando coisas de amor.
Estava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar cantando coisas de amor.
O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou, quem dera moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou, e cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar cantando coisas de amor, depois da banda passar cantando coisas de amor, depois da banda passar cantando coisas de amor, depois da banda.
Petite balade Esprit Occitanie, on est allé du côté du Brésil, on revient dans nos studios en duplex. Madame Aubry-Alix, la présidente de la Fédération nationale des associations et amis des personnes âgées et de leurs familles, et en direct dans nos studios, Philippe Trujillard, son délégué Occitanie. Il faudrait qu'on parle quand même de ce scandale auquel on a été confronté, on a découvert, j'ai l'impression que ce n'était pas nouveau. Et pourtant, la loi de 2002 nous dit qu'il y a une démocratie participative, les conseils de la vie sociale. Comment se fait-il que ces familles n'ont pas pu alerter ? Comment se fait-il que ces familles, Madame la Présidente, n'ont pas alerté ? Que s'est-il passé ? C'était des forteresses, ces EHPAD ?
Alors, il se trouve que ce livre est sorti opportunément au moment de la campagne électorale, et en plus il est sorti sur un EHPAD de Neuilly, qui n'est pas n'importe quelle ville, puisque je rappelle que les prix moyens acquittés dans cet EHPAD étaient de 6 000 euros à 12 500 euros mois. Ce qui nous a un petit peu étonnés, par contre, alors, parce que dans les EHPAD privés, mais comme dans d'autres EHPAD, mais dans les EHPAD privés en particulier, tout est en général centralisé au niveau des sièges. Et donc les réclamations ou les événements indésirables, on ne les laisse pas traiter localement, on remonte. Donc les familles ont d'une façon générale énormément de mal à se faire entendre, d'autant plus quand vous êtes un citoyen, je dirais, de niveau social plus ordinaire, parce que ça n'est pas tout le monde qui peut se permettre d'acquitter les montants dont je parlais tout à l'heure. Donc,
Justement, Madame Brially-Alix, les personnes de niveau élevé, très argenté, 7 000, 8 000 euros, auraient pu à un moment donné, en tout cas, ils maîtrisaient, pourrait-on dire, totalement l'ensemble des outils à leur disposition. Alors, ça veut dire quoi ? Il y avait une sorte d'ascendance, c'était le silence, c'était l'omerta.
Moi, j'y vois deux choses. La première des choses, nous le sommes dit, la FNAPEF, nous sommes des gens de plus moyens, et nous nous sommes dit, c'est curieux quand même, avec des carnets d'adresses comme ceux qu'ils devaient avoir, c'est étonnant qu'ils n'aient rien dit. Bon. La deuxième chose, c'est que, pour dire, c'est vrai qu'il faut, je recommande aux familles d'être extrêmement présentes. présente. Mais quand on dit présent, c'est-à-dire qu'il faut regarder, si votre personne a un bleu quelque part, si elle a fait une chute, vous en apercevrez, ainsi de suite. Bon. Je pense en plus qu'ils n'ont rien dit parce que, si vous voulez, la procédure à ce niveau-là, pour eux, la notion de démocratie participative ou au sens où on se met autour d'une table, eux, c'est plutôt une procédure judiciaire. C'est-à-dire, on s'adresse à un avocat et d'emblée, on engage, s'il y a dysfonctionnement, une procédure pénale.
Et donc un contentieux, directement.
Ce qui n'a pas été fait à cette époque-là.
Voilà. Oui, ça veut dire qu'on lance directement et on va directement au contentieux.
Voilà. Alors qu'en fait, il y a d'autres étapes tout à fait possibles avant d'aller au contentieux, c'est-à-dire pour régler les conflits, il y a un conseil de vie sociale qui est un organe consultatif où il y a des représentants élus de résidents et représentants élus de famille, et où normalement, on devrait pouvoir autour de la table, avec les autres partenaires qui sont ceux donc de l'établissement, pouvoir poser l'ensemble des problèmes, l'ensemble des dysfonctionnements, et chercher à construire ensemble une réponse à apporter. Étant entendu qu'il faut que nous prenions tous en compte les difficultés, en particulier budgétaires, dans lesquelles se trouve l'établissement, et les difficultés à recruter. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il existe, alors il y a des établissements, il faut le dire, où ça fonctionne. Plutôt des établissements publics et associatifs, il faut le dire, hein. Même si quelques établissements privés le font aussi, mais quand même, l'associatif et le public a une approche qui n'est pas une approche mercantile. Donc ça change considérablement la donne. Voilà. Donc il y a un moyen de faire quelque chose, mais surtout que les familles ne restent jamais isolées. Seules, on ne peut rien. Il faut se regrouper.
Alors, ce que vous dites pour cette démocratie participative soit réellement opérationnelle, vous demandez la parité des personnes, des membres élus, résidents et familles, une coprésidence, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt la direction qui préside. Vous demandez le caractère, bien évidemment, obligatoire, pas uniquement 3 fois par an. Vous souhaitez qu'il y ait, quoi, tous les 2 mois, peut-être tous les mois, un conseil?
Je dirais qu'il faut s'adapter. C'est-à-dire que ça peut être, par exemple, 2 conseils dans un même trimestre, un le trimestre suivant, mais aussi on peut en faire plusieurs en fonction, par exemple, d'un dysfonctionnement grave qui serait posé. Il faut s'adapter, il faut donner de la souplesse.
Et ensuite, la puissance publique. Il y a eu des dysfonctionnements. Pourquoi la puissance publique n'a pas contrôlé? Il n'y a pas assez de contrôle. Alors que j'ai l'impression qu'on est contrôlé, qu'il y a des rapports qui remontent aux ARS, aux conseils départementaux, qu'il y a des comptes administratifs, qu'il y a des commissaires aux comptes dans les divers organismes dits gestionnaires. On a failli, là, pourrait-on dire, collectivement.
On a failli collectivement pour plusieurs raisons. D'abord, en ce qui concerne les agences régionales de santé, qui sont celles qui sont là pour contrôler le bon fonctionnement de l'établissement. Comme vous savez, il y a toujours trop de fonctionnaires. Donc les postes ont été restreints. Donc vous avez des postes limités pour les contrôles, et vous avez donc en plus des postes qui ne sont pas tous pourvus selon le territoire dans lequel vous vous trouvez. Ça, la première chose. 2, ils ne sont pas formés sur l'approche financière. Donc ils n'ont pas eu à connaître de l'approche financière et donc de la connaissance du fonctionnement et des fameuses marges et autres qu'on faisait. Bon, d'où l'importance effectivement de donner une ouverture de contrôle financière via la Cour des comptes, via les chambres régionales des comptes. Donc ce qui a été fait récemment avec l'inspection générale des finances. Bon. Et d'autres choses qui viennent compliquer la vie en ce qui concerne le secteur privé, c'est qu'on vous oppose le secret des affaires. La fameuse directive européenne qui a été ensuite adaptée en droit français comme elle se doit, et qui fait qu'en sorte, pour protéger le secret des affaires, donc en principe, normalement, ça, c'est le côté créatif de la situation, et bien voilà, et on en arrive là.
Alors, le plus jamais ça, vous savez que souvent on prononce cette phrase quand on a eu un scandale, quand il y a quelque chose qui s'est mal passé, et puis on se dit tous collectivement, plus jamais ça. Est-ce que le plus jamais ça, du scandale dans les EHPAD, avec la mobilisation de votre association, de votre fédération, les citoyens qui se mobilisent, vous pensez qu'on peut en effet plus voir cela dans notre pays? On est quand même, Madame la Présidente, au 21e siècle.
Oui, mais il faudrait donc justement qu'on apprenne la mobilisation collective. Ceci s'est perdu aujourd'hui. Isolément, on ne peut rien faire. En groupe, on peut faire des choses. Et donc, il faut réapprendre la mobilisation collective. Et c'est indispensable. Et plus jamais ça, mais il faut faire en sorte qu'on ne marche pas qu'à l'émotion du moment. C'est-à-dire qu'il faut, au-delà de l'émotion, se dire qu'il y a le problème de fond et qu'il faut le traiter dans la durée.
Vous dites dans une de vos fiches également que peut-être aurions-nous trouvé le coupable idéal, c'est-à-dire ces EHPAD dits lucratifs. Est-ce que c'est votre analyse, après avoir lu, écouté l'ensemble de vos adhérents, le coupable idéal serait donc ces deux marques qui sont leaders sur le secteur ?
Le coupable idéal, bon, alors la marchandisation, ça c'est propre au secteur privé et ça effectivement c'est éminemment contestable. Mais le coupable idéal aujourd'hui, c'est quand même l'État qui doit balayer devant sa porte et qui doit dire pourquoi, et ce depuis 15 ans, il ne répond pas aux besoins qui est celui du vieillissement de la population et de sa perte d'indépendance. Et c'est bien cela qui pose problème après de multiples rapports qui débordent des placards. Pourquoi les présidents successifs depuis Jacques Chirac et jusqu'à maintenant n'ont pas répondu à cette question sociétale fondamentale ?
Vous représentez combien de membres dans votre fédération ?
Alors,
assez nombreux, comme on dit. Combien de bataillons ?
Alors, combien de bataillons ? Eh bien, finalement, pas assez d'associations aujourd'hui, parce que nous avons deux composantes, des adhérents individuels et des composantes associatives. Et les composantes associatives, c'est comme dans toutes les structures associatives maintenant, nous avons plus assez de bénévoles et les associations ne perdurent pas. Donc, nous avons aujourd'hui 11 associations qui fonctionnent. Et nous avons, par contre, 150 adhérents individuels, mais ces adhérents individuels, je les invite à participer beaucoup plus, parce que malheureusement aussi, les adhérents individuels sont quelquefois des consommateurs qui, leurs problèmes résolus, considèrent qu'ils ne sont plus concernés lorsque ça ne touche plus les leurs.
Et ne s'engagent plus. Et vous dites, il faut s'engager, c'est un combat au quotidien.
Tout à fait, et de longue durée.
Et de longue durée. Nous arrivons au terme de notre émission Sentinelle d'Humanité. Les deux candidats, n'oubliez pas les vieux, en un mot, vous leur demandez quoi ? Des engagements clairs, précis. Vous souhaiteriez que dans le débat de mercredi, il y ait au moins une phrase, quelques minutes sur les vieux et la dépendance ?
Ben, nous l'espérons depuis le début de la campagne électorale, hein. Mais malheureusement, et apparemment, ce serait un sujet pas assez clivant. Étonnant, non ?
Voilà. Merci Philippe, merci Claudette Brialix de votre présence en duplex. Une nouvelle, ça a bien marché, la connexion était bonne. Merci à tous, on se retrouvera en Sentinelle d'Humanité pour d'autres sujets sociétaux sur les questions de la vulnérabilité dans notre pays. N'oubliez pas qu'il faut aller voter. Merci à tous et à très bientôt.